Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Mon Dieu, qu'on a ici un temps de main. Hein? Ça nous, ça a le don de nous, je sais pas, nous rabaisser le moral, de peut-être d'augmenter notre facteur de stress aussi. En tous les cas, on voulait parler de ça, nous, ce matin, du stress, parce que on en vit tous du stress. C'est comme une espèce de chose qui nous est tous tombée dessus à un moment ou l'autre de notre vie. Puis on dirait qu'avec le genre de société qu'on s'est construit, on a comme décidé de se bâtir une espèce de fort de stress autour de nous. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à le gérer. De plus en plus, on le voit. Un stress qu'on met parfois parce qu'on y déborde de nous-mêmes et là, on le projette sur les autres. Il y a des gens qui passent leur vie à stresser les autres. Les autres seraient pas stressés, mais il y a tellement de monde qui les stresse autour que ça devient stressant pour tout le monde. Voyez-vous comment que on est entouré par le stress? Il se trouve qu'on a une chercheure, docteur en neurosciences, qui est avec nous au Québec, qui s'est spécialisée vraiment là-dedans et qui reconnaît, effectivement, c'est son dernier livre, À chacun son stress. Chacun en a un. Sonia Lupien, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour.
Ce que j'ai apprécié dans votre livre, c'est que vous parlez aussi du vôtre.
Absolument. Hein? Je ne suis pas immunisée du tout.
Non, c'est ça. Et vous dites même que, vous le dites à un moment donné, il vous êtes arrivé souvent de revenir à la maison puis de dire à vos enfants une phrase du genre, je suis désolée, là, mais je suis comme vraiment, j'ai beaucoup de choses dans, dans ma marmite. Donc, vous dites, il faut en parler du stress, ce qu'on veut faire ce matin.
J'ai souvent dit à mes enfants, si tu as quelque chose à me demander, fais ça demain parce que tu n'as pas de chance aujourd'hui. Là, je suis à bout. Là. Et donc, je pense que le plus beau cadeau que j'ai fait à mes enfants un jour, c'est de leur donner la permission de me dire quand je suis stressée. Parce que souvent, on ne s'en rend même pas compte nous-mêmes. Et si quelqu'un nous dit « Ah, mon Dieu, t'es stressé », on dit « Ben non, voyons, pas du tout ». Et là, ça rend pire. Et donc, souvent, ce que les enfants vont faire aujourd'hui, ils vont me regarder puis vont dire « Mom, faudrait t'aille promener le chien ». Ça veut dire…
Ah, c'est bon ça. On va reparler du stress particulier des enfants tout à l'heure, entre autres avec l'animatrice Saskia Thuo, qui était tellement à bout de ces temps-ci, qui a dit « OK, il faut que je m'en aille être en Floride pour se calmer un peu le pompon », comme on dit. Mais donc, Sonia, vous, comme chercheur, vous remarquez qu'on a de plus en plus des niveaux de stress ingérables.
Bien, en fait, ce que je vois, c'est une très, très grande interrogation de la part des parents sur le stress de leurs enfants. Donc, à chaque fois que je donne une conférence, j'ai une longue ligne à la fin de parents qui viennent me voir pour me parler du stress de leurs enfants. Mais quand ces parents-là me parlent du stress de leurs enfants, je vois devant moi quelqu'un d'extrêmement stressé. Et comme je dis toujours, je pense qu'à force de mettre le spotlight en français sur les enfants, ça nous empêche de le mettre sur nous-mêmes. Et donc, ce qu'on sait, c'est que le stress des parents déborde sur les enfants. Alors, ce que je leur dis, il faudrait que vous commenciez par gérer le vôtre, puis je peux vous assurer que si vous faites juste ça pour la prochaine année, vous allez diminuer le stress de vos enfants de 50 %.
Et c'est de ça, 50 %?
Oui, à peu près. Donc, c'est vraiment ça dans le livre, d'essayer de convaincre les parents. Commencez par, comme dans l'avion, hein, quand l'hôtesse de l'air dit « mettez le masque sur vous avant de le mettre sur vos enfants ». Et en général, le trois quarts du travail va déjà être bien commencé.
Christopher Hall est avec nous. Vous le connaissez bien, humoriste, animateur, mais clarinettiste à la base de formation.
Oui, absolument. C'est la seule affaire que j'ai étudiée.
Oui, c'est la seule affaire que tu as étudiée. Tu t'en es sorti finalement?
Oui!
Parce que
oui.
Toi, le concert, c'était pas pour toi. L'orchestre, le cadre.
Oh, j'ai adoré, mais c'est une dictature, dans le fond. Tu sais, oui. Le gars en avant, gentil comme il peut paraître.
Mais à la baguette.
Quand il se tourne, ben oui. C'est lui qui a le plus petit instrument de l'orchestre. Puis il fait le plus. En plus, c'est pas juste. C'est lui qui décide. Ça prend quelqu'un comme ça. Mais donc, dictature et moi, ça allait pas très bien ensemble. Je faisais trop de blagues à l'orchestre. Fait que mes collègues ont dit, ben, hey, essaye-toi donc. Fait que là, je
comme
fais les
Maurice,
deux. Ouais, c'est ça. Là, je fais les deux en même temps. Et je reviens de l'Allemagne où je faisais mon spectacle, en fait, avec un grand orchestre là-bas. Alors, je peux faire rire les Allemands. N'importe quoi est possible. C'est ça que je me dis.
Ah, c'est bon.
Ben oui. Ça me stresse pas du tout. C'est intéressant, comme vous disiez tantôt, par rapport à donner tes enfants la permission de. On peut-tu se tutoyer?
Absolument, aucun problème.
OK. Donner tes enfants la permission
c'est
de dire...
C'est surtout que c'est en anglais, puis ils n'ont pas de vous.
Ça, ben, ça devient compliqué, tu sais. Mais puis moi, j'ai même pas eu besoin de dire à nos enfants, on n'a pas besoin de leur dire. Ils nous disent, là, « Hey, t'es stressé, là. »
Mais toi, t'es stressé. En tout cas, t'es arrivé ce matin, t'avais un petit peu la
brouille. Je voulais me mettre en caractère, tu sais. Ouais. Fait que je suis parti un peu en retard, puis j'ai décidé de marcher au lieu de prendre l'auto. Puis ça, c'est moins stressant, en fait, mais j'ai dû courir finalement pour être à l'heure. Fait que oui, je dirais que notre vie, en général, comme c'est aujourd'hui, tu sais, pensez-y, il y a 20 ans, on n'avait pas ce téléphone-là. On n'avait pas besoin. Moi, j'étais assis à l'aéroport récemment à Utah, en Nevada or whatever, Utah. Et il y avait un
Utah, c'est dans l'Utah.
Utah, ça c'est les Mormons et tout,
oui,
ça. J'ai jamais fait un show comme ça. Il y avait comme 600 adultes, puis comme 150 enfants le soir. Tu sais, c'est des Mormons, donc il y a une couple de familles qui ont amené leurs enfants, 2-3 familles. Mais il y avait un gars dans l'aéroport sur son cellulaire. Dans les choses de toilette, il faisait ses besoins le matin à l'aéroport, puis il parlait au téléphone. J'ai dit, ben voyons donc, on est toujours, si tu ne textes pas quelqu'un de retour tout de suite, ben voyons donc, qu'est-ce que tu faisais?
Tu sais que Sonia Lupien a fait ça aussi, aller dans les aéroports?
Ah, okay. Oui, moi j'adore
pour observer aller... les gens.
Oui, il y a deux endroits sur la Terre où on peut voir des gens stressés à temps plein, le trafic le matin quand les gens sont en retard. Et ben moi quand je vais à l'aéroport, j'arrive toujours une ou deux heures avant parce que c'est le meilleur endroit au monde pour voir des gens stressés et c'est pire avant qu'ils passent les douanes. Quand ils arrivent, là, c'est lent. Je regarde les parents avec les enfants. C'est un laboratoire humain pour moi. Donc, si vous me voyez assise un jour, c'est que je suis en train de regarder ça.
Fait qu'on est mieux d'avoir l'air relax.
Oui, bien voilà.
OK. Mais moi, je trouve que notre monde, en général, est fait pour nous stresser. Tu sais, les deux parents travaillent souvent. On part de la maison au plus tard, à 7h30, 8h. Et puis, on voit les enfants 15 minutes le soir. Et nos jobs sont stressants. Le boss est toujours en contact avec nous à travers nos téléphones intelligents. Tout le monde nous dit que la Terre est à veille de péter aux frettes dans 15 minutes, dans les 15 prochaines années. Il n'y a plus d'insectes, donc on est mort.
Te stresse? T'es devenu éco-anxieux?
Moi, je pense que oui. Éco-anxieux, je pense que c'est une bonne chose. On devrait faire tous devenir un peu éco-anxieux parce que je pense que c'est vrai, ça. Tu sais, je veux dire...
On serait plus conscient de notre environnement.
Oui, je pense que oui. Je pense que oui.
Là, mais en même
temps,
c'est un stress supplémentaire. Les gens qui sont stressés par leur environnement, là, parce que justement, comme vient de le dire Christopher, on se rend compte que les changements climatiques, les bouleversements, ça nous bouleverse, nous aussi. Regardez ce qui se passe, là. François Legault vient d'ailleurs d'annoncer qu'ils vont reconstruire la digue, la Sainte-Marthe. Mais je veux dire, on peut la reconstruire là. L'année prochaine, ça va être d'autres choses. C'est ça qui nous attend. Donc, tu te dis...
Et on n'est pas en Bangladesh,
on s'entend. Je parlais avec un environnementaliste la semaine dernière qui me disait, plus ça va, puis plus les jeunes, ils se posent la question, je veux-tu faire des enfants? C'est un stress constant juste de se donner... C'est de la survie. On est là-dedans, la survie, c'est stressant. Là.
Ben, ils disent que c'est une sixième extinction. Fait que c'est game over en 100 ans.
Vous, Sonia,
votre conversation est fascinante parce que vous êtes en train les deux de vous auto-générer du stress.
Mais c'est ça l'idée,
c'est ça que vous êtes en train de faire et c'est pour ça que je déteste le terme d'éco-anxiété parce qu'à part nous écœurer puis nous stresser, là, ça n'a aucune finalité.
Ouais.
Je veux dire, il n'y a pas d'impact parce que d'avoir l'impression qu'on a le contrôle sur une situation ou on n'a pas le contrôle sur une situation, c'est ça qui va faire qu'on stresse.
Je ne suis pas d'accord parce qu'on a contrôle de cette situation-là si on fait quelque chose.
Faisons-le et cessons d'en parler.
Tout à fait. Mais ça, je suis d'accord. C'est que la plupart du temps, font « fuck it, je peux rien faire anyway ». C'est ça que vous dites.
Parce que ce qu'on le voit aussi chez les personnalités anxieuses, c'est que là, ils se disent « ça y est, j'ai encore plus de viande pour être anxieux parce que là, ça y est, c'est la fin de l'humain ». L'humain est très solide. Bon, à moins que la Terre saute demain matin, on va tout sauter, c'est fini. Là. Mais je veux dire, l'humain a survécu au mammouth, l'humain a survécu à un paquet de choses. Moi, j'ai énormément d'espoir dans la nature humaine, dans la capacité d'adaptation du cerveau humain. Le cerveau de nos jeunes n'est plus du tout comme il était. On appelle ça un modelage cérébral à cause du cellulaire. C'est correct. Il y a aussi des avantages.
Il y a autant
d'effets positifs.
Un modelage 30 secondes.
Non, il y a autant d'effets positifs que d'effets négatifs des nouvelles technologies. Et bien que les parents, parce que moi, ce que j'aime, c'est de faire un souper de quinquagénaire. Et après une heure ou deux de souper, là, je lance le sujet du cellulaire et les enfants. Et là, c'est parti. Mon Dieu, Seigneur, c'est la fin de l'humanité, etc. Et pourtant, la majorité des études montrent qu'il y a autant d'effets positifs sur le quotient intellectuel, sur l'attention, qu'il y a d'effets négatifs. Et je vous rappellerai qu'il y a une étude qui est sortie avant hier, qui a suivi pendant 12 000 jeunes pendant 10 ans. C'est la première et la seule bonne étude qui a été faite sur le sujet. Et ils ont mesuré le bien-être, le bonheur des jeunes, etc. Et ils montrent qu'il n'y a aucune association entre l'utilisation du cellulaire et le bonheur des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés avec un cellulaire dans les mains. Donc, leur cerveau s'est modelé à cette chose-là.
Pourrait quand même jouer dehors un petit peu plus.
Il pourrait jouer dehors encore un petit peu plus.
Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est l'effet des ondes et puis de Le fait d'avoir un cellulaire collé à l'oreille, est-ce que c'est bon? Il n'y a jamais eu autant de tumeurs au cerveau. Vous parlez de cette étude-là, mais la semaine d'avant, quelques jours plus tôt, il y avait aussi des gens qui parlaient. Entre autres, j'avais attrapé une entrevue à l'émission de mon collègue Paul Arcand où il y avait un spécialiste qui dit attention, les ondes électromagnétiques, tout ce qu'on reçoit, le Wi-Fi.
Là, tu me stresses, Isabelle.
Mais je sais que j'en parle là-dedans.
Moi, j'ai même pas pensé à ça. Oui. Là, j'ai un tumeur au cerveau.
Vous l'avez entendu, celle-là? J'ai un peu mal de côté gauche.
Celle-là et bien d'autres. Il y en a d'autres qui montrent qu'il n'y a pas d'effet. Ouais. Mais si nous, on fait ce qu'on appelle... Ben, ça dépend du biais de sélection qu'on a. Si systématiquement à la radio... on ne parle que des études qui rapportent des effets négatifs, c'est sûr qu'on va contribuer à l'éco-anxiété. Mais demain matin, demandez-moi de vous apporter des études qui montrent des effets, qu'il n'y en a pas ou que c'est positif. Je vais vous en trouver aussi. Mm. Et c'est le propre des études scientifiques, parce que le négatif vend plus que le positif. Et j'ai fait une étude, je ne me souviens plus de l'année, où j'ai montré que le seul fait de lire des nouvelles négatives dans les journaux augmente les hormones de stress chez l'humain. Pourquoi? Parce que notre cerveau est un détecteur de menaces. C'est ça, sa job. Et quand il détecte une menace, il produit des hormones de stress. Et donc, les médias ont aussi un rôle important à jouer dans la santé publique. C'est parce que si on continue toujours d'envoyer du négatif, ben, on va créer...
Mais le positif ne vend pas.
Je suis d'accord avec le
ils ont fait un...
Les bonnes nouvelles.
Qu'ils ont fait avec... c'était un journal avec juste des bonnes nouvelles, puis ça a duré trois semaines.
Ça, non, je vous le dis. Non, le journal existe encore. Et je suis en train de faire une étude où je montre... Je suis en train d'étudier l'effet des nouvelles positives, donc j'aurai des résultats en octobre.
Moi, je les adore.
Quel journal? On lit ça où?
Ça s'appelle Goodness Global TV. C'est un ancien journaliste qui s'appelle Laurent Hébeau.
Ah oui, Goodness TV, oui. Oui. Ça marche encore, Goodness?
Oui, je le lis à tous les matins, ça me fait le plus grand bien.
Puis mettons, comme bonne nouvelle qu'il y avait ce matin, là. Qu'est-ce qu'on pourrait tenir de bonnes nouvelles?
Il y en a plein. L'affaire avec le Goodness, c'est qu'il est obligé d'aller partout dans le monde pour avoir des bonnes nouvelles, que ce soit en Afrique, etc.
Parce qu'il n'y en a pas assez ici.
Ben non, il n'y en a pas assez ici.
Voyez, Sonia, ce qu'on vous dit, là, il n'y en a pas assez de bonnes nouvelles.
On s'auto-génère du stress.
Oui. Attendez, je vais aller sur Goodness TV pendant la pause, puis il y a déjà plein de monde stressé qui nous appelle.
Dans leur char.
C'est intéressant parce qu'en fait, la question, puis ça va nous faire. Non, mais sincèrement, on a la spécialiste du stress au Québec. Elle nous dit, faut en parler. Moi, je trouve qu'au moins, on fait œuvre utile ce matin. On vous donne l'occasion de parler de votre stress. Ça calme beaucoup mon invité.
Oh, j'adore ça.
Christopher Hall.
On ferme les yeux.
Je fais ça tous les jours pendant 20 minutes.
Ah, moi, j'adore. Alors, tout le monde, on prend une grande respiration. On se met dans une posture mentale. Légère. Votre cerveau est comme un petit oiseau. Il s'envole.
Et t'es bonne là-dedans?
Il s'envole. Mais partez pas trop loin. On revient. Après la pause. Vous êtes parti où? Je vous ai juste trop calmé avec ma voix. Écoute, les lignes étaient pleines soudainement. Oups, là, ils se sont dit, finalement, ils sont allés dormir.
Se sont endormis
ils sont
à leur
tellement
char.
Calmés. Voyez-vous comment ça se vend pas de la goodness?
C'est positif.
Est en compagnie de Sonia Lupien, qui est chercheure et docteur en neurosciences. Elle vient de publier À chacun son stress. Elle est aussi directrice du Centre d'études sur le stress humain de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Elle est professeure titulaire au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Je vais vous présenter comme il faut, parce que tout à l'heure, on est tout de suite arrivé dans le vif du sujet. Également avec nous, Christopher Hall, qui est clarinettiste de formation et qui aussi est humoriste, bien sûr, qu'on aime beaucoup recevoir. Saskia Thiot est avec nous. Saskia, qui était tellement à bout de tout qu'elle a décidé qu'elle s'en allait un petit peu ailleurs, là où il fait plus beau que ce matin à Montréal et au Québec. Salut, Saskia!
Allô!
Hey, raconte-nous!
Je vous envoie... Oui, je t'écoute.
Non, tu nous envoies du soleil, on va le prendre.
Je vous envoie un petit tracteur qui ramasse les algues aussi.
Ah, t'as-tu un problème d'algues?
Il y en a beaucoup, mais...
Est-ce que ça te stresse?
Non, pas en tout. Sincèrement, à vrai dire, moi, c'est j'étais à bout, puis c'est drôle de l'entendre, mais c'est vraiment ça. À un moment donné, je suis plus capable. On dirait que j'arrivais plus à... On a un horaire, on a une liste à faire, on a tellement de trucs, là, j'y arrivais pas. J'ai dit, tant pis, je tire la plug, mais il reste que maintenant, on peut travailler de partout parce que je suis ici, je suis sur le bord de la mer, c'est fabuleux, mais j'ai quand même travaillé pendant la semaine.
Ouais.
Mais ça m'a permis de décrocher aussi beaucoup et de déléguer. Je salue d'ailleurs le père de mes enfants qui est un allié extraordinaire qui me permet de faire ça aussi.
Oui. Évidemment, on pose la question ce matin à nos auditeurs, auditrices. Quelle est votre plus grande source de stress? Ça, j'aimerais vraiment entendre vos réponses là-dessus parce qu'on peut tous avoir une source de stress différente. Vous nous joignez au 514-790-9850 et sans frais, vous faites partout au Québec le 1-866-790-9850. Ta plus grande source de stress à toi, Saskia, c'est quoi? C'est le...
Mais je pense que c'est d'arriver à arrimer tout. Tout, le boulot, puis tu sais, moi, je fais un travail quand même qui est un peu hors norme, ce qui fait que je peux travailler à peu près à n'importe quel moment. Arrimer les enfants, les horaires, les rendez-vous, faire plaisir à tout le monde, c'est ça qui me stresse le plus.
Faire plaisir à tout le monde.
Faire plaisir à tout le monde, que tout marche, les enfants, puis moi, je suis rendue, tu sais, ils arrivent à la préadolescence, commencent à se promener un petit peu à gauche, à droite, donc c'est plus ça.
Donc, là, tu parles de la charge mentale, je pense, un peu. Hein? Tu parles beaucoup de la charge mentale.
Exactement. C'est exactement ça. C'est la charge mentale qui est gossante. On est sollicité de à gauche, à droite, tout le temps. C'est un peu de ma faute aussi. Parce que parfois, on en donne beaucoup. Puis, évidemment, que ça fait qu'on en a encore plus sur notre horaire et sur les épaules.
Mais pourquoi on s'en met autant? Pourquoi on s'en met autant, Saskia?
Je le sais bien pas. Je le sais bien pas, puis cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai fait même l'exercice de me libérer de mon téléphone et de mon ordinateur. Hier, j'ai fait 3 heures sans eux et je vais encore bien et je suis encore vivante et j'ai rien manqué de si grave. Alors, c'est vraiment ça pour moi, l'exercice. Je sais pas pourquoi on s'en met tant, parce qu'on veut que ça roule, parce que le temps file, parce que tout va si vite, puis que à un moment donné, on veut tout, je sais pas. Je sais pas.
Christopher, tu sais pourquoi?
J'aimerais ça comprendre.
J'aime beaucoup ce que Saskia dit par rapport à faire plaisir à tout le monde. Je pense que, parce qu'on fait un peu le même sorte de travail, on est tous les deux à notre propre compte d'une certaine façon. Alors, on veut que tu sais, tout le monde soit heureux, et que tous les affaires, comme elle dit, marchent avec les enfants, avec les blondes, les conjointes et tout ça. Mais je trouve, laisser ton cellulaire pendant 3 heures, Saskia, là, franchement, chapeau. Pense-y.
Hey, c'est 3 heures. Allô,
ça fait 24 heures qu'on n'a pas d'Internet. On a presque perdu nos enfants. Ils sont allés chez les voisins. Ils disent, on va vivre ici jusqu'à temps que ça revienne. Là, appelez-nous.
Pourquoi tu n'as plus d'Internet?
Monsieur Bell, un des pôles est tombé. Pourquoi?
Pourquoi on s'en met autant, Sonia Lupien?
Ben, je dis tout le temps que souvent, on est notre pire ennemi. Hein? On n'est pas dans un pays en guerre. On est un pays riche, éduqué, en santé. Donc, le 3/4 de notre stress, on se le génère. 100 000 raisons. Et une que j'ai remarquée récemment, que peut-être qu'on oublie, c'est que, bon, là, vous êtes en Floride, ça va, mais vous êtes au Québec le 3/4 du temps. Chaque changement de saison apporte du stress additionnel. Et ça, on l'oublie. On pense toujours que notre stress va toujours être pareil.
On a-tu eu un changement de saison? Je suis pas sûr, là.
Non, mais tu sais, les changements de saison vont rajouter à peu près 20 à 25 % de choses à faire à votre agenda. Je vous donne un exemple. Il faut ouvrir le terrain, les sprinklers, changer les pneus, etc. Et on pense que c'est exactement la même chose qu'au mois de décembre et on se rajoute. Et dans le livre, il y a un chapitre, justement, où je parle du bidon de stress. C'est-à-dire que vous avez un bidon de stress qui se remplit tranquillement avec tous les stresseurs que vous avez. Et à un moment donné, quand il est plein, c'est là que les crises de colère arrivent. On saute une coche avec les enfants, etc. Et le but, c'est de vider ou de s'arranger pour que le bidon de stress se remplisse pas trop et de bien comprendre qu'est-ce qui peut nous stresser dans une
journée.
Et
comment on peut vider le bidon?
Vider le bidon, c'est extrêmement difficile. Le plus important, c'est de ne pas le remplir.
Ah, okay.
Donc, d'être capable de reconnaître quand on a une réponse de stress bien avant qu'elle commence à nous rentrer dans le corps et s'arranger pour l'arrêter avant qu'elle rentre dans le bidon de stress. Et c'est de ça qu'on parle dans le livre.
Oui, mais ça, c'est difficile.
Il faut reconnaître quand on est stressé. Le 3/4 des gens reconnaissent quand ils sont stressés, quand il est déjà trop tard.
C'est ça.
Ils sont déjà en colère spontanée, ils ont mal au ventre, ils ont de la misère à digérer, sont fatigués, ils pleurent pour rien. Et donc, il est déjà très tard quand on est rendu là.
Qu'est-ce que tu fais pour gérer ton stress, à part te pousser en Floride, Saskia?
Ben moi, j'essaie de bouger. J'essaie d'aller m'entraîner, je vais marcher. Je vais mettre de la musique dans le tapis puis je vais danser dans la cuisine en ramassant la vaisselle. Ça me fait vraiment énormément de bien. La musique, pour moi, est un exutoire fabuleux. Alors, c'est ce que j'essaie de faire. J'écris beaucoup, mais tu sais, je dis tout ça puis je le fais pas autant que je souhaiterais le faire. Voilà.
On a Marc-André avec nous. On va lui demander c'est quoi sa plus grande source de stress. Un auditeur qui nous appelle au 514-790-9850. Je vous pose la question. Marc-André, quelle est votre plus grande source de stress?
En ce moment, c'est les trous dans les rues de Montréal.
Oh. Alors, partez-moi pas là-dessus. Oh mon Dieu, c'est un gros stress.
C'est une danse de tous les instants. C'est incroyable comment on... Puis là, le problème, c'est qu'on n'a pas tous le même niveau de capacité à les détourner. Donc, il y a des gens qui sont plus lents, disons. Ça crée encore des bouchons. Le stress, moi, la conduite en auto, c'est un stress énorme. Je trouve que les gens sont souvent aussi... ils prennent pas en considération les autres. Donc souvent ils vont prendre beaucoup d'espace, ils vont se placer dans des positions qui vont bloquer, exemple une voie qui pourrait se libérer parce qu'ils cherchent tellement à... un des gros problèmes souvent là, c'est que les gens cherchent à rentrer dans une ligne qui est pleine. Puis là ils vont, au lieu de rentrer dans un trou, ils vont se mettre en arrière parce qu'ils ont trop de respect en disant ah, j'irai pas dépasser les autres. Mais là le problème c'est que lorsqu'on se met en arrière d'une ligne qui est en arrêt, il y a toujours l'effet de slingshot qu'on appelle.
Ouais.
Alors, c'est mieux de rentrer quand il y a une ouverture qui se crée en deux autos, au lieu de bloquer tout le monde qui est dans la voie du milieu, parce que tu cherches absolument à rentrer dans la voie de gauche en attente que les autos repartent.
Prends l'autobus, Marc-André. Là, tu as juste le stress à l'attendre.
J'ai réglé le problème, je reste même temps. Moi, je reste dans le bois.
C'est comme ça que vous avez géré votre source de stress, vous avez déménagé, puis vous allez plus près de la nature, c'est ça, Marc-André?
Exactement. Ouais. Puis ça, je pense que c'est super important. La nature, ça calme beaucoup. Les arbres, c'est prouvé. Ils disent qu'il y a une étude qui dit qu'être entouré de 10 arbres et plus autour de soi, ça équivaut en qualité de vie à un salaire de 10 000 $ supérieur au salaire que vous avez maintenant. Donc, c'est comme si on vous donnait 10 000 $ de plus aujourd'hui en salaire.
Comme 1 000 $ par arbre qui est proche de toi, là, genre.
C'est en qualité de vie, c'est l'équivalent de 10 000 $ être entouré d'arbres.
Connaissez-vous donc, ça, cette étude-là, Sonia Lupien?
Non, mais ce qu'une étude a montré, par exemple, c'est que si vous mesurez les hormones de stress des gens qui vivent en ville versus en milieu rural, ils vont produire beaucoup plus d'hormones de stress en
c'est
milieu.
Sûr.
En
puis les bûcherons
là,
sont riches.
Tous...
Là.
Oui, ben là, oui, les compagnies qui possèdent le bois, c'est ça que tu veux dire?
Mais pour revenir au trafic, j'ai quand même rencontré un jour une dame qui souffrait vraiment de stress. Elle habitait en banlieue et le stress du trafic du matin est en train de la manger tout rond. Puis elle dit, j'ai aucune capacité de négocier ça. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, j'ai dit, quand vous êtes devant le mammouth, là, puis il n'y a plus rien à faire, bien, à un moment donné, la fuite est une option. Ce que je veux dire, c'est que si le stress vous... Si ça vous stresse tellement, le trafic, bien, déménager, ça peut être une option éventuellement, parce que le stress que vous vivez du trafic va déborder sur vos enfants, va déborder sur votre santé, etc. Un jour, vous allez devoir prendre une décision à ce sujet-là. Il y a des gens pour qui c'est pas si pire que ça, donc eux autres sont corrects, mais pour elles, c'était vraiment, vraiment souffrant.
Mais juste sur le trafic puis le stress que ça nous génère, on peut faire une heure là-dessus.
Mais c'est pas tout le monde qui est stressé à cause du trafic.
Non, mais beaucoup, je pense. Moi, hier, un
le
gars...
Le méchant gang que j'ai croisé hier, qui l'était, là.
Quand les gars sont... Quand les gens sont dans leur auto, je trouve qu'ils sont comme protégés. Le gars m'a hurlé après avec un « fuck you ». Puis il y avait une vieille madame à côté qui entendait lui. Puis j'avais rien fait. J'étais juste pas assez vite au goût du monsieur. Puis la pauvre petite madame était comme « Are you okay? » Elle dit à moi, tu sais, elle dit « I'm fine. I think he needs some help, but I'm fine.
Ouais. » Ouais. Merci Marc-André. Saskia, je vais te laisser avec ta Floride qui te calme. Ouais. Toi aussi, remarque, t'as décidé, tu vis en banlieue, près de la nature, tu vas marcher en montagne.
Vraiment.
Là, je vais pas te stresser, lundi, on va parler des tiques puis de la lime. Moi, je sais que marcher en montagne, c'est devenu une source de stress. Moi, je veux pas que les feuilles me touchent. Je veux juste vous dire ça. Là. J'ai fait un documentaire avec ma compagnie de production il y a quelques années. On a été les premiers, je pense, à tirer la sonnette d'alarme là-dessus.
Ouais.
Moi, les tiques et la lime, c'est un vrai problème. Moi, ça me stresse. Mais bon, ça, c'est personnel. Bon,
fait que je vais rester dans ma cuisine. De
c'est bord. Ça. Exact. C'est
danse dans ta cuisine.
Hey, merci beaucoup, Saskia. Merci bien.
Ah,
mon Dieu, qu'on est sur le nerf à matin. Je sais pas vous autres, mais moi, bon, je fais des gros efforts. 514-790-9850. 1-866-790-9850.
Ah, là, tu sors ta voix méditation, là, ça fonctionne.
Ouais, là, c'était ma voix pré-chant grégorien. Parce que notre ami Christopher, c'est les chants grégoriens qui le calment. Pendant que vous y pensez à votre plus grande source de stress, moi, c'est ça que je veux vraiment vous parler après la pause de ça. Je veux l'entendre. C'est quoi votre grande source de stress? Dites-moi pas que c'est moi, là. Je pense qu'on a compris le concept. 514-790-9850. 1-866-790-9850. Ça, c'est encore méditatif, ça, JC, par exemple.
Oui, oui.
Ça, Jean-Christophe Ouellette, là. Il n'est jamais stressé. Ça, c'est mon technicien qui est en charge ici de cette émission.
Il
n'est jamais sous stress.
Ça, cool.
Ah, Isabelle Lorme, ma recherchiste, m'a dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En tout cas, il est très calme.
Je suis calmé, là. Je suis dans la forêt amazonienne ou quelque chose, là.
Ça, c'est magnifique.
Super beau. Ouais.
C'est très magnifique. On a juste envie de déménager en Asie.
Ouais.
Tu sais qu'on ne respire plus en Asie, hein? On revient après la pause.
Calmant, ça.
Ça calme temporairement. Là.
Moi, ça me calme. Avant, si j'ai un gros show, j'écoute ça avant. C'est avant. Première show que j'ai faite à Juste pour rire, j'ai écouté ça avant. Le gars est venu, il filmait quelque chose. Il dit, qu'est-ce que t'écoutes? J'ai dit, ben écoute ça. Il pensait que j'étais complètement flyé, mais c'est super calmant parce que ouais. C'est simple. C'est juste une ligne de mélodie.
Tu sais que le moine Mathieu Ricard était venu nous dire ici, justement, qui est très pro-altruisme, ouais. Très pro, bien évidemment, cohérence cardiaque, même qui est une des façons, Sonia Lupien, mm-hmm. de contrôler son stress incontrôlable. Il disait que ce genre de musique, mm-hmm. en particulier les chants grégoriens, mm-hmm. ils ont un impact sur notre cerveau, mm-hmm. sur les ondes de notre cerveau. C'est un effet, c'est tout à fait logique que ça ouais. te calme, parce que ouais. c'est un effet calmant.
Intéressant.
Oui, vraiment. Ça va. Mais là, c'est assis, parce qu'on ne veut pas trop se calmer non plus. Il y a du monde qui est stressé au bout du fil,
ils
et on
là.
Veut leur parler. Alors, on va commencer tout de suite avec nos auditeurs qui veulent... Sébastien, par exemple. Bonjour, Sébastien.
Bonjour.
C'est quoi votre grande source de stress?
Honnêtement, c'est l'argent. Mm-hmm. Donc, on vit dans une société où est-ce que c'est important de se mettre de l'argent de côté pour s'acheter une maison. Si on vit dans une société où est-ce que c'est dit qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, partout où qu'on va, il y a de l'argent qu'on doit dépenser. Partout où est-ce qu'on... avant de faire quelque chose, il faut tout qu'on se redise, à deux, trois reprises, là, si je sors ce soir, il va falloir que je mette un certain montant. Il faut tout qu'on y pense. À un moment donné, on ne sait même plus où se mettre.
Ouais. Mm-hmm. Sonia, ben, voulez-vous dire quelque chose?
La façon de comprendre ce stresseur-là, ce que les études montrent depuis très longtemps, c'est qu'il y a quatre caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, l'âge que vous avez, vous allez stresser. Les quatre acronymes, là, premièrement, vous devez avoir l'impression, j'ai dit impression, que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Ensuite, la situation doit être imprévue ou imprévisible. Elle doit être nouvelle et votre personnalité doit être menacée. Par exemple, quelqu'un qui remet en question votre capacité de bien faire votre travail devant des gens. Bon. Et donc, c'est sûr que si l'argent est une source d'imprévisibilité pour vous ou que vous n'avez pas l'impression que vous avez le contrôle sur la situation, c'est clair, net et précis que ça va être un stresseur. Tandis que pour une autre personne qui a l'impression d'avoir le contrôle, soit parce qu'il y en a assez ou que ça y dérange moins, ben ça ne sera pas un stresseur du tout. C'est ça qui explique que deux personnes qui sont devant exactement la même situation, une va stresser et l'autre ne va pas stresser. Il n'y a aucune situation au monde, à part les grandes guerres qu'on appelle des stress absolus, là, mm-hmm. qui va être un stresseur pour tout le monde en même temps.
Même pas le trafic?
Non, oh, pas du tout. Il y a plein de gens pour qui c'est pas stressant, le trafic.
Ah, ouais.
Ah oui, je vous jure.
Ouais.
Oui.
Moi, je suis chanceux, ma blonde est une super pas stressée.
Ah, ouais.
Elle est tellement... Mm. Elle a toujours une solution. Puis,
ça, c'est bon. Est-ce que le stress... On disait tout à l'heure, puis dans votre livre, vous le dites, le stress est contagieux. Dans le fond.
Oui, on appelle ça la résonance de stress. Il y a des études, c'est sorti en 2015. Par exemple, si je vous amène à mon labo, Isabelle, puis je vous stresse et je mesure vos hormones de stress, elles vont augmenter. C'est normal.
Ouais.
Maintenant, si je vous amène à mon labo puis je vous stresse, puis j'amène Christopher aussi, puis je dis, Christopher, toi, t'es correct. Tu seras pas stressé. Tu vas juste observer Isabelle en train de se faire stresser.
Ça va me stresser.
Et je mesure les hormones de stress de Christopher. Ils vont augmenter en même temps que les vôtres.
Ah, ouais.
Donc, vous allez raisonner ensemble. Et plus il y a un lien entre vous deux, mère, fille, mari, femme, etc., plus vous allez raisonner. Puis je suis sûre, c'est déjà arrivé à des auditeurs. Vous arrivez dans un meeting ou un endroit, il y a quelqu'un de bien stressé. Mais avant de rentrer dans le meeting, vous étiez super de bonne humeur. Puis là, soudainement, ça commence
tellement.
À... Ben, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une résonance de stress. On ne connaît pas vraiment pourquoi ça existe, c'est quoi les mécanismes à la base.
Ah.
Mais ça fait partie aussi des effets de débordement du stress parental sur les enfants. Quand les parents arrivent à la maison, souvent les parents vont me dire, écoute, pourquoi je travaillerai à contrôler mon stress, il y a juste moi qui souffre. Et je leur dis, et c'est ça le livre, c'est faux. Hein? Votre stress va déborder sur ceux que vous aimez et c'est pour ça que vous devez apprendre à contrôler votre stress avant de commencer à essayer de contrôler celui de vos enfants.
On devrait mentionner le livre, Isabelle, parce
ben
qu'elle
oui,
m'a donné
on va,
une copie.
On va le redire. Écoute, c'est À chacun son stress. C'est les effets du stress sur le développement du cerveau de l'enfant, les effets de débordement du stress parental sur l'enfant. Que faire pour prévenir ça? C'est effectivement très bien documenté, puis ça se lit vraiment très, très bien. Là. Sincèrement, c'est un livre de notre chercheur Sonia Lupien, spécialiste du stress, mais c'est pas stressant de lire ça. Au contraire, on apprend plein de choses. Entre autres, on va parler aussi des façons que les gens ont, parce qu'on est vendredi, Oui, souvent, c'est vrai. C'est la journée du vino. Puis vous avez un chapitre là-dessus, Sonia.
Il y a juste une journée des vinos?
Bien, ça dépend des gens. Moi, j'essaie de limiter ma consommation. Tu comprends?
Très bien.
Mais le vendredi, j'ai comme le vendredi garanti. Vino. Là.
Je comprends.
Et vous, vous dites, Sonia, mollo sur le vino.
Exact.
Pour quelle raison?
On ne va pas lire ce chapitre-là, s'il vous plaît, c'est vendredi.
Non, mais elle va nous le résumer.
Est-ce que ça peut être mercredi martini ou quelque chose?
Bien, c'est comme tu veux, mais c'est sûr que l'alcool, il y a bien des gens là, qui disent, ben oui, puis c'est pas, il y en a, tu as raison, Christopher, ils n'attendent pas le vendredi. C'est comme, tu rentres du bureau à 5h moins quart, tu es sur le gros nerf, tu arrives chez toi à 6h, ça te prend ton déstresseur alcoolique. Là.
Puis ça marche pendant 5 minutes.
Le problème, c'est que c'est pas un déstresseur.
C'est
un stresseur. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'on a l'impression que le vin diminue notre stress, mais c'est l'inverse. Plus on est stressé, plus on prend de vin, plus ça va nous en prendre, du vin ou de l'alcool ou peu importe quoi. Et ce faisant, on va activer un système de récompense dans le cerveau qui, lui, utilise même le stress. Pour activer votre système de récompense, vous avez besoin du stress.
C'est quoi la chose de récompense?
Le système de récompense, c'est un système en plein milieu de votre cerveau qui va utiliser un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. N'importe quelle drogue, que ce soit le sexe, les pilules, etc., vont activer. Oui, ben, n'importe quoi qui donne du plaisir à un humain, ça peut être le magasinage aussi, va activer ce centre-là. Et des fois, on peut perdre contrôle là-dessus. Donc, plus vous êtes stressé, plus vous allez activer ce centre-là, et plus il va être activé, plus il va en avoir de besoin. Et ce qu'on montre, j'appelle ça la tétrade noire du stress. J'ai un de mes collègues qui travaille là-dessus et qui dit, c'est ça le problème du cercle vicieux de stress, c'est qu'on se fait à croire que ça nous déstresse quand c'est complètement l'inverse. Ça nous fatigue, mais ça ne veut pas dire que ça nous déstresse.
Mais il y a quand même un effet calmant sur le premier verre de vin qu'on prend, là.
Oui.
Donc, on va prendre tout à l'heure.
Oui.
On fait comme...
Oui.
Est-ce que c'est l'alcool ou c'est le fait qu'on s'assied puis qu'on relaxe soudainement, qu'on se dit, OK, là, je ferme le bureau, je ferme tout ce qu'on a sur notre bureau d'ordinateur aussi, notre bureau, il est devenu virtuel. Là.
C'est vrai.
Et si vous me voyez en studio, mon bureau, on l'a devant nous, là, comme dans le film avec Tom Cruise. Là,
oui, c'est ça.
Des affaires, c'est ça. Est-ce que c'est parce qu'on fait le geste de dire, OK, là, je décroche? C'est tout ça qui est calmant et pas tant le vino, finalement?
C'est un excellent point, parce que je suis à peu près certaine que n'importe qui, au lieu de prendre un verre de vino, ça va faire une petite course, un petit jogging ou n'importe quoi pour perdre l'énergie mobilisée. Parce que quand on est stressé, on mobilise l'énergie, il faut la perdre. Bien, l'effet va être aussi calmant qu'un verre de vin. Puis ce qu'il faut savoir, puis je le résume dans le chapitre, c'est que si vous prenez ce que les gens ne savent pas, c'est que, mettons, votre niveau de base, c'est un verre de vin par jour. Puis vous avez une période de grand, grand stress, votre cerveau va dire, moi, je veux une anane, j'en veux plus. Vous allez tomber à 2 verres de vin par jour. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'une fois que vous êtes à 2, vous n'allez pas retourner à 1. On retourne rarement derrière.
Ouais.
Et donc, vous allez vous promener avec un nouveau niveau de base qui va être 2 verres de vin par jour. Puis là, je ne sais pas, moi, 5 ans plus tard, un enfant tombe malade, il y a un autre gros, gros stresseur. Le cerveau va dire, ah, je veux mon anane. Vous allez tomber à 3 verres de vin par jour. Et c'est comme ça que cette espèce de cercle vicieux-là va commencer à s'instaurer. Ça ne se fait pas en 2 jours, mais tranquillement, les effets pernicieux vont être vus à cause des effets du stress. Et d'autant plus, si vous pensez que l'alcool va vous servir à déstresser, vous allez l'utiliser plus souvent et ça va juste aller plus vite.
Là, je suis stressé par rapport à prendre un verre de vin à la fin de la journée.
Mais non, allez courir avant,
là, c'est pas moi, là.
Là,
c'est Dr. Lupien. On s'arrête ici. On parle à Marie-Michel au retour et à d'autres auditeurs qui vont nous dire quelle est leur plus grande source de stress. À tout de suite, tout le monde. Oh mon Dieu, JC, sérieux, on est en pleine inondation. Là. Là, c'est de l'eau. Ça, voyez-vous, c'est stressant. Non, mais sérieusement, je veux pas être obligée, je veux pas faire exprès d'appuyer sur le bouton, mais en ce moment, mettons que de l'eau comme ça, tu dis, ça rentre-tu dans mon sous-sol?
Oui.
C'est épouvantable ce que vivent les gens, n'empêche que
ça c'est
là,
vrai.
L'environnement. Je veux pas ramener la boucle à l'environnement, mais n'empêche qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens stressés au Québec à cause de ça.
Ah oui. C'est la deuxième fois en 2 ans.
Attends, c'est là, oui.
En 2 ans. Oui.
Ce qui était beau à voir. C'est la quatrième fois en 5 ans, tu peux dire.
Ce qui était spectaculaire à voir, c'était tout le monde qui est venu aider. Moi, je trouvais ça tellement.
Oui, et ça, c'est.
L'esprit de tempête est venu.
Voilà. On a Marie-Michel avec nous. Bonjour, Marie-Michel. C'est quoi votre grande source de stress à vous, c'est quoi?
Moi, en fait, c'est l'éducation de mes enfants. J'ai un garçon puis une fille qui ont 3 ans et 2 ans. Puis je veux tellement tout leur donner, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire des gaffes. Je suis stressée de qu'il y ait un bon repas arrivé à la maison, qu'ils soient santé. Je veux qu'il y ait une bonne éducation, je veux leur donner des bonnes habitudes de vie. Puis on a tellement comme conscience des conséquences qui arrivent si on le fait pas que ça me stresse à tous les jours.
Moi, je trouve qu'elle sonne comme la maman parfaite.
Ben oui, je suis sûre. Mais je pense que Marie-Michel, je suis passée par là avant vous. Je suis plus vieille que vous. Fait que je peux juste vous dire, je suis sûre que vous êtes une bonne maman. Tu sais, des fois, il faut se le dire, la fête des mères, c'est dimanche. Là. Moi, je voudrais juste en profiter pour dire aux mamans, tu sais, on n'est pas pire, finalement.
T'sais, vous êtes incroyable.
On n'est pas pire. Tant que tu ne mets pas du tape sur la bouche de ton enfant. Là,
oui, oui.
Tu comprends, là, ils ont tellement des exemples de mauvais parents en ce moment. Là, on ne reviendra pas là-dessus aujourd'hui parce qu'on rend hommage à cette petite fille qui a perdu la vie dans les mêmes parents qui étaient juste... Dire incompétent, il n'y a même pas de mots, là. C'est
non,
même pas ça.
Je veux dire,
c'est des criminels, exactement. Donc, mais la plupart des parents au Québec, il faut quand même le dire, là, c'est plutôt des gens qui essayent de bien élever leurs enfants, puis il faut garder ça. Là. On essayait d'être positive, Sonia. Là.
Oui.
Puis vous aviez. Merci, Marie-Michel.
Mais je veux juste se dire, peut-être à Marie-Michel, il faut, c'est très bien, il faut juste essayer d'éviter, il y a un chapitre là-dedans, les dangers de ce qu'on appelle l'hyperparentalité.
Oui.
Hein? Donc, à tout vouloir, tout donner à nos enfants, ça finit par les stresser sans qu'on s'en rende compte. Et donc, il y a différents types d'hyper-parents, et j'en parle dans le livre. Il y a les parents cultivateurs, les parents hélicoptères, les parents tigres. Et donc, en fonction de ça, on voit des effets différents sur les enfants récemment.
Voilà. Merci, Marie-Michel. Gabrielle, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Ah, donc, moi, mon stress, c'est vraiment la performance scolaire. Vous savez, quand on est à l'université, comme des fois, il faut vraiment viser fort, puis on a de la pression, pas nécessairement des parents ou des professeurs, mais vraiment de la pression qu'on se met soi-même sur soi.
C'est vrai. Et comment vous arrivez à gérer ça, Gabrielle? Est-ce que vous y arrivez?
La seule manière vraiment que j'ai trouvé de gérer ça, c'était vraiment d'étudier fort. Parce que c'est la seule manière qui fait qu'on se sent prêt pour les examens, pour les présentations orales et tout. Donc, c'est ça.
Ben, écoutez, puis va prendre une belle marche juste avant ton examen. Tu vas voir, ça va augmenter encore plus ta capacité en diminuant tes hormones de stress. Ça diminuera peut-être pas ton stress que tu ressens, mais ça va diminuer tes hormones de stress. Et n'oublie jamais qu'il y a une courbe en U inversée entre le stress et la performance. Un peu de stress va augmenter ta note. Fait qu'il faut juste que tu te rendes de ce côté-là de la courbe.
Fait qu'il y a du bon stress aussi.
Il y a toujours du bon stress.
Mmh. Ouais.
Ça augmente la performance, le stress. Il faut juste savoir bien le gauger, hein, bon Québécois.
Ouais.
Et donc, si elle vide un peu son bidon de stress juste avant l'examen, elle va tomber sur le côté gauche de la courbe et elle va avoir un effet augmenté de performance.
Bon, ben, hey, Gabrielle, bonne chance pour tes examens. Merci beaucoup. Louise est avec nous. Bonjour, Louise.
Bonjour, Isabelle. Écoute, les deux personnes qui ont parlé avant moi, c'est le début de ma vie de stress. J'ai commencé à l'université, donc j'étais stressée par les examens, comme cette mademoiselle-là. Ensuite de ça, les enfants. Mm-hmm. Maintenant, je suis rendue à une âge jusqu'à j'ai réussi ma vie, j'étais à la retraite, et là, je veux en profiter. Et ce qui me stresse, c'est les gens qui se plaignent, c'est les gens stressés qui... Parce que quand t'es stressé, t'as pas de solution. T'es juste dans le moment présent où ce que tu stresses et t'avances pas. Et moi, je veux plus subir ça, donc... Quand je suis à côté de ces gens-là, le stress vient me rechercher, puis je me dis, je ne mérite plus d'être stressée. Je mérite juste de bien vivre.
Et vous avez tellement tout compris. C'est tellement merveilleux. Vous décrivez cet effet de résonance-là. Et je me toujours me souvenir d'une jeune fille en secondaire 4 dans une école qui est venue me voir. Elle dit, moi, ma copine, elle a une anxiété de performance. Puis quand, avant un examen, elle est tellement stressée qu'elle me stresse. Qu'est-ce que je dois faire, madame? Et je lui ai dit, la fuite est une option. Hein, le cerveau a deux choix devant un stresseur. Il combat ou il fuit. Parfois, quand vous êtes entouré de gens comme ça qui ont cet effet négatif sur vous que vous sentez, la fuite est une option.
Donc,
je la
pratique
souvent.
Donc, on ne tient pas ce monde-là.
Ben, pas pour le moment. C'est-à-dire, on les renie pas à tout jamais, mais ici et maintenant, au moment où je te parle, ça me tente pas. Je vais aller faire autre chose et je reviendrai quand je serai en mesure ou que tu seras en mesure de pas déborder sur moi.
On a Jean-François rapidement avec nous. Bonjour, Jean-François.
Oui, bonjour. Moi, ce qui me stresse, c'est essayer tout le temps de plaire aux autres. Surtout à la job où je me sens tout le temps en train de courir, genre 15 secondes plus loin, genre pour tout le temps être plus vite ou performant, dans le fond, genre. Puis surtout, les gens à la job qui stressent, parce que les gens, ils veulent performer, ils veulent que ça aille vite, mais dans le fond, pour rester dans le présent, puis c'est pas facile tout le temps. Hein?
Exactement, ça, vous avez raison. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent ça. Merci, Jean-François, des gens qui me disent, moi, ma difficulté, puis mon stress, c'est que je me rends compte que je suis pas dans mon corps, que je suis pas là, que je suis... Puis ce que vient de nous dire Jean-François, il résume presque bien des gens, c'est-à-dire l'important... Tout le monde veut plaire, on dirait. On est la performance, la perfection, c'est 3 P.
Mm-hmm.
Performance, oui. Perfection. Enfin,
et ce que les recherches montrent depuis des années, c'est que la façon la plus simple de stresser quelqu'un, c'est de le soumettre à ce qu'on appelle une évaluation socio-évaluative. C'est-à-dire, je vais évaluer votre performance devant vous avec des petits juges qui vont vous regarder la face bête là, et je vais vous stresser en 2,5 secondes. On ne sait pas pourquoi le cerveau humain est extrêmement sensible à ça. On pense que dans le temps du mammouth, là, dans le temps de l'homme néandertal, il fallait plaire aux autres parce que sinon, ils nous sortaient de la tribu puis on allait mourir tout seul. On avait besoin de la gang. Là. Et donc, c'est extrêmement important de faire partie de la gang puis de, pour ça, bien performer.
En tout cas, il y a Isabelle qui dit qu'elle est enseignante de sixième année à Boisbriand, qu'elle utilise vos illustrations, Sonia Lupien, du mammouth pour les jeunes, genre spin ton stress. On peut trouver ça sur le site de Sonia Lupien, stresshumain.ca. Je rappelle le titre de votre livre, À chacun son stress. Allez lire là-dessus, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Merci Christopher Hall.
Merci Isabelle.
Merci beaucoup Sonia, merci. C'était vraiment très intéressant. On se retrouve après les nouvelles. Restez là tout le monde.